Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faites un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SMJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Étienne Tabagne, professeur d'économie à Marseille, et deux fois par mois, je m'attaque franco avec vous à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine. Bref, cette émission est comme le stade Vélodrome, ça résonne. Aujourd'hui, petite question où on se lâche.
Ça sert à quoi, les patrons ?
Franchement, ça ne vous est jamais arrivé de vous poser cette question ? Notamment quand votre patron vous oblige à faire une tâche qui vous semble inutile. Dans ces moments-là, on aimerait tellement s'en débarrasser.
Au revoir, président.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne ?
Ben, c'est Pierre.
Au revoir, président.
Imaginez un peu. Pas de surveillance de sa part, pas d'autorité à supporter, pas de rapport à rendre, une totale liberté dans son travail et ses horaires. Elle serait pas belle, la vie comme ça ?
On n'est pas bien ?
Si.
Paisible. À la fraîche.
Mais bon, si les patrons existent, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Alors, ouvrons un dictionnaire d'économie.
Patron, synonyme entrepreneur, nom masculin, est un agent économique qui dirige l'entreprise.
Diriger est un verbe plutôt vague qui peut prendre plusieurs sens. On peut en donner trois. Diriger, c'est tout d'abord attribuer des tâches à chacun. C'est la fonction d'organisateur et de donneur d'ordre.
Oui, je sais, mais il est le maître, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide. C'est le boss, le grand Manitou, le gros bonnet, la vedette.
Deuxième fonction du patron, diriger, c'est contrôler et surveiller que chacun et chacune fasse bien son travail.
Non. Si je diminue les coups de fouet, vous travaillerez plus lentement et le palais ne sera pas terminé à temps. Oh. Et moi, croco.
Et enfin, troisième fonction, le patron est celui qui donne une direction générale à l'entreprise. Ça peut être par exemple un type de production à réaliser, une clientèle à cibler, des objectifs de rentabilité à atteindre, bref, un projet d'ensemble.
Parce que c'est notre projet !
On connaît tous plus ou moins ces trois fonctions du patron. Elles nous sont habituelles. Et pourtant, certaines entreprises les remettent en cause. Par exemple, Sogilis, société de développement des logiciels, qui a une trentaine de salariés répartis sur plusieurs sites comme à Grenoble et à Lyon. Dès la création de Sogilis en 2008, les fondateurs voulaient une organisation qui bouscule la définition traditionnelle du patron, notamment la première fonction de donneur d'ordre.
La phrase qui résume bien leur vision, c'est que ce sont les gens qui font, qui savent. C'est la personne qui va développer le logiciel qui sait de quoi a besoin le projet, en fait. Et donc, c'est cette personne qui doit aller voir le client, cette personne qui doit aller voir le client du client, qui doit comprendre tous les tenants et aboutissants. C'est pas le manager qui doit lui dicter son boulot, alors que le manager ne le connaît pas forcément bien parce qu'il a fait des études de management au lieu de faire des études de développement informatique.
Lui, c'est Augustin Richard. Je l'ai rencontré, lui, mais aussi sa collègue Margot Perrin, lorsque je me suis rendu à Lyon dans les locaux de la boîte. Ils sont tous les deux docteurs en neurosciences et salariés de cette firme où ils sont totalement autonomes dans leur travail. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Il y a des règles, bien sûr. Mais les règles sont discutées entre les salariés et non pas imposées par le patron, comme l'explique Margot.
Si c'est une idée qui va coûter beaucoup de temps et d'argent, on peut faire appel à ce qu'on appelle la sollicitation d'avis. Donc, on va mettre... Nous, à Grenoble, en tout cas, on utilise beaucoup une plateforme informatique parce qu'on est quand même un peu plus nombreux qu'à Lyon, une trentaine, je dirais. Et il y a pas mal de gens qui font du télétravail, qui travaillent à la maison. Donc, tout le monde n'est pas forcément tous les jours physiquement dans les bureaux. Donc, on va passer par là, mettre un petit mot pour dire, voilà, j'ai telle idée, qu'est-ce que vous en pensez ? Et le concept, c'est que la personne qui demande l'avis aux gens, c'est quand même elle qui prend la décision au final. C'est-à-dire que peu importe, entre guillemets, les réponses qu'on va lui faire, c'est elle qui a le dernier mot pour prendre cette décision. Après, en toute bonne intelligence, avec l'idée que l'entreprise doit vivre, doit être rentable, etc. Mais voilà, dès qu'il y a quelque chose d'un peu impactant, le processus, c'est d'aller demander leur avis aux personnes que ça pourrait impacter.
la première dimension de donneur d'ordre est purement et simplement supprimée. À tel point que ce genre d'entreprise porte le nom d'entreprise libérée. Alors non, pitié, pas cette musique s'il vous plaît, sinon on va pas s'en sortir. Il y aurait quelques dizaines d'entreprises libérées en France, selon deux économistes, Isaac Getz et Brian Carney, qui ont consacré un ouvrage dédié à ce sujet, Liberté et compagnie, dont la nouvelle édition augmentée est sortie en 2016 en France. Comme les salariés définissent les règles de l'entreprise, l'organisation concrète peut changer d'une entreprise à l'autre. Les auteurs ont donc choisi une définition large de l'entreprise libérée. Voici les points importants. Autonomie des salariés. Confiance entre les salariés et entre les salariés et les patrons. Prise d'initiative des salariés. Partage de l'information. Et égalité intrinsèque de tous les travailleurs, avec suppression de toute forme de hiérarchie. Même s'il reste quand même un patron, on va y venir. Alors soyons honnêtes, on manque de statistiques fiables sur l'ensemble de ces entreprises, sur leurs profits, sur leur développement, etc. Mais il y a quelques cas de réussite qui sont systématiquement mis en avant par les partisans de ce mouvement. Alors pourquoi dans ces cas-là, ça marche? Pour une raison bien simple. Tous les cerveaux sont mis à contribution. Et donc, ça multiplie d'autant les chances de trouver des bonnes idées, de nouvelles façons d'innover, d'aller chercher de nouveaux clients, etc. Et ne croyez pas que ça peut marcher avec seulement des cerveaux très qualifiés, comme avec nos deux docteurs en neurosciences, Margot et Augustin. Par exemple, l'entreprise finlandaise Sol, firme de 10 000 salariés et numéro 2 des services de nettoyage dans ce pays. La boîte a décidé de tout changer en 1991, notamment sous la houlette de la nouvelle présidente Liisa Jorhonen, qui succède à son père. Sa méthode est radicale. Elle confie les clés de l'entreprise aux salariés, c'est-à-dire aux équipes de ménage composées essentiellement de femmes peu qualifiées. Et ces salariés décident immédiatement de s'affirmer. Premièrement, plus question de faire le ménage à des horaires tardifs lorsque les bureaux où elles interviennent sont fermés. Deuxièmement, ce sont désormais elles qui prennent les décisions. Elles proposent des services aux clients, elles gèrent les contrats, elles trouvent de nouveaux clients, elles construisent des budgets, etc. Elles ont donc bénéficié de formations ciblées en ce sens. Et troisièmement, décision symbolique, plus question de porter des uniformes gris et sombres comme s'il fallait avoir honte de son travail. Elles ont redessiné leurs vêtements de travail avec du rouge et du jaune bien vifs pour être vues de tous. Et au final, le succès est au rendez-vous. De 1992 à 2010, ces équipes autodirigées ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 15%, avec des marges bénéficiaires de 8 à 9%, selon les chiffres révélés par Getz et Carney dans leur ouvrage « Liberté et compagnie ». Pourquoi un tel succès? Tout simplement car ce sont elles qui travaillent sur le terrain. Elles repèrent donc sur place d'éventuels besoins spécifiques à chaque entreprise et proposent ainsi des services sur mesure à chaque client. Elles ont su s'investir dans le travail et lui donner un sens. Et c'est un point crucial pour Pierre Nassif. Il a fait une carrière d'ingénieur en informatique et en télécommunications, et depuis quelques années, il se passionne pour les entreprises libérées et écrit de nombreux articles à ce sujet pour les défendre.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le problème de l'entreprise classique, il est en effet dans le mot « entreprise comment ». Qu'est-ce que ça veut dire, l'entreprise comment ? L'entreprise comment, ça veut dire... Eh bien, l'entreprise va dire comment on doit faire les choses. Elle va dire quels sont les mots qu'on doit dire dans telle et telle circonstance. Par exemple, vous êtes dans un centre d'appel, eh bien, vous avez un algorithme, et puis, si le client a dit ceci, il faut dire cela. Et les gens deviennent des robots. Finalement, peut-être qu'un jour, on les remplacera par des robots s'ils se laissent robotiser. Et de même, les gestes dans l'industrie, si les gestes sont tous définis à l'avance, et qu'il n'y a pas de place pour l'amélioration continue, pour l'autonomie, pour l'initiative, pour la découverte par chacun de ces solutions, oui, peut-être qu'un jour, ils se laissent robotiser, ils seront remplacés par des robots. Donc, l'entreprise commence, c'est une entreprise qui considère que l'être humain n'a pas besoin de donner du sens à son travail, n'a pas besoin de donner du sens à sa vie. Et ça, c'est très grave. C'est une profonde erreur. C'est une profonde erreur. L'être humain a besoin de donner du sens à sa vie, à son travail. Il ne peut pas accepter que le sens de sa vie soit ailleurs.
Ça rejoint directement ce que dit Margot sur sa motivation au boulot.
Ouais, c'est un modèle qui est vraiment très enrichissant si on est prêt à s'impliquer, en tout cas. Ça ne marche pas si on n'est pas prêt à s'impliquer, de toute façon. Et très stimulant parce qu'on apprend plein de choses, parce que... on a l'occasion de travailler sur plein de sujets différents. On est, enfin, moi, je suis ergonome, je ne fais pas que de l'ergonomie. Les développeurs ne font pas que du développement. Ils ont l'occasion de tester quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est, et que Christophe, Christophe y tient beaucoup, c'est le droit à l'erreur à Sogilis. C'est très important pour lui que les gens n'aient pas peur d'avoir un retour de bâton, qu'ils n'aient pas peur d'essayer. Si quelqu'un fait une erreur, ben, il fait une erreur, il fera mieux la prochaine fois. On est vraiment dans une démarche d'amélioration continue et de confiance. Et c'est pas grave de se tromper. Vaut mieux essayer et se tromper que ne rien faire.
Mais attention, tout n'est pas rose non plus. Ce n'est peut-être pas grave de se tromper, mais il faut quand même s'assurer que tout roule dans l'entreprise. Et ça, c'est une vraie source de stress que les salariés se retrouvent à assumer. Car le patron n'est pas là pour surveiller. Il fait confiance à son équipe. Donc la deuxième fonction du patron est, elle aussi, purement et simplement supprimé. On est ici carrément à l'opposé de l'entreprise tayloriste. Vous savez, cette organisation dite scientifique du travail qui nous vient du 19e siècle et de Frédéric Taylor, et qui impose une division du travail très poussée avec une hiérarchie stricte entre, d'un côté, les donneurs d'ordre, c'est-à-dire le patron et son équipe dirigeante, et de l'autre, les exécutants. Pierre Nassif nous explique cette opposition.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler, McGregor, qui est un penseur de l'entreprise, un des premiers penseurs qui a vraiment voulu secouer le système du taylorisme, il dit il y a deux théories, il y a la théorie X, la théorie Y. La théorie X, c'est celle sur laquelle, la base de laquelle fonctionne le taylorisme, c'est la théorie qui dit que l'être humain est un paresseux, hédoniste, incapable de sérieux, et puis volontiers menteur et malhonnête. Et donc, si jamais on veut en tirer quelque chose, il faut le contraindre. Il faut le contraindre et le récompenser s'il fait bien, le punir s'il fait mal, un peu comme on fait quand on dresse un cheval. Et bon, donc c'est ça le taylorisme. Pensons-y, c'est ça le taylorisme. C'est cette conception-là de l'être humain, la théorie X. La théorie Y, eh bien, c'est ce que je vous ai dit en ce qui concerne les conceptions qu'on a de l'être humain dans l'entreprise libérée. Que l'être humain est digne de confiance, qu'il a des talents, que il peut prendre l'initiative, il aime bien être autonome, et que, en fonction de ça, si jamais on organise une entreprise en fonction de cette conception de l'être humain, eh bien, il donnera le meilleur de lui-même. Et donc, l'entreprise libérée, c'est là-dessus qu'elle fonctionne.
Personne ne conteste les gains apportés par la division du travail. Adam Smith, économiste écossais du XVIIIe siècle, a été l'un des premiers à identifier la division du travail comme facteur de prospérité. Car c'est une organisation qui, 1. Évite les pertes de temps, 2. Permet à chaque travailleur de se spécialiser dans son ouvrage, et 3. Permet aux travailleurs également de réfléchir à de meilleures idées pour améliorer le processus de production. Mais dans son ouvrage de la richesse des nations en 1776, Smith ne mentionne à aucun moment que cette division du travail doit nécessairement s'accompagner d'une division hiérarchique stricte. C'est clairement Taylor qui rajoute cette dimension, en imposant un dispositif où toute la réflexion intellectuelle doit être retirée des ateliers et des usines pour être confiée à des bureaux d'études, et dans lequel le travail des exécutants et des ouvriers doit être contrôlé, chronométré et surveillé. Et les entreprises libérées semblent s'affranchir de cette vision. Hop, je vous arrête tout de suite là. Ce mouvement n'a rien d'anticapitaliste. Il nous reste une troisième fonction du patron, celle de donner une direction globale à la firme, et celle-là est cruciale pour les entreprises libérées. Chez Sogilis, il y a encore un dirigeant. Il s'appelle Christophe Bayon. Margot et Augustin insistent sur son rôle.
À quoi il sert ? Christophe, il apporte surtout la vision, en tout cas, c'est ce qu'il veut. Enfin, c'est sa vision d'apporter la vision. Je pense que c'est un peu le cas dans beaucoup d'entreprises libérées. La volonté, c'est que le patron, il est là pour insuffler la vision de l'entreprise, qu'est-ce qu'on veut faire à moyen terme, à long terme, qu'est-ce qu'on est, où on va. Et ça, c'est l'aspect général. Après, en pratique, Christophe, il est aussi beaucoup dans tout ce qui est recherche de financement, partenariat, etc. Laurent, il va être beaucoup dans les relations avec les clients. Mais ça pourrait être quelqu'un d'autre qui joue ce rôle-là. C'est, encore une fois, là, c'est leurs compétences à eux qui font qu'ils se mettent dans ces rôles-là. Ça pourrait être un salarié qui est très qualifié sur ces questions-là et qui prend ces fonctions-là.
À Sogilis, ça se résume à leurs trois piliers. Venir au travail avec le sourire, enthousiasmer le client, mais aussi et surtout faire des profits. Et oui, ça reste une entreprise, dans un cadre très capitaliste, avec par exemple maîtrise des coûts, notamment des coûts salariaux. L'autonomie et la confiance, oui, mais des salaires élevés, non. Et puis, il y a aussi un autre hic. Cette organisation ne tient que parce que les patrons le veulent ainsi. Rien n'est gravé dans le marbre. Si jamais ils décident de revoir leur organisation et de remettre une hiérarchie classique, personne ne peut les en empêcher. Il existe d'ailleurs des cas répertoriés par le professeur Isaac Getz d'entreprises libérées qui reviennent à une organisation hiérarchique classique, car le patron est parti à la retraite et que son remplaçant n'a pas la même vision du management. Ce qui fait que la dénomination de libéré est un peu trompeuse. Oui, ces entreprises sont en partie libérées de la hiérarchie et du contrôle, mais ça reste temporaire. Elles ne sont jamais définitivement libérées. Au final, on reste là dans du capitalisme classique, mais en revenant au premier sens large de diriger, avec un patron qui s'évertue avant tout à donner une direction et une vision. Reste une dernière question. A-t-on nécessairement besoin d'un individu pour incarner et donner cette direction à l'entreprise ? Ne pourrait-on pas aller plus loin dans la remise en cause de l'existence même du patron en confiant aux salariés la construction de la vision de l'entreprise? C'est tout l'enjeu des entreprises autogérées. Mais là, l'épisode se termine, mais on peut se garder ça sous le coude pour une autre fois. Rendez-vous au prochain épisode de Splash pour jeter un pavé dans la mare. Rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une émission d'Étienne Tabac produite par Nouvelles Écoutes. À la réalisation Aurore Meyer-Mailleux, au mixage Maxime Olivier, à la coordination Laura Cuissard et à la prise de son Marine Rowe. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, sur Instagram et Facebook sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas vous aussi à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast et je prends toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite !